Émission spéciale Immobilier dans les Hauts-de-Seine face au succès de l'après-Covid. Présentée par Johanna Silberstein, mercredi 26 mai 2021, en direct sur Radio Immo.
Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale que Radio Immo vous propose pour aborder le marché immobilier des Hauts-de-Seine. Le 92, c'est l'une des régions, l'une des zones les plus tendues qui a connu le plus gros boom en cette crise, crise sanitaire. On va essayer de voir pourquoi, on va essayer d'expliquer les raisons de cet assaut dans les Hauts-de-Seine, pourquoi le marché s'est emballé et continue à s'emballer. Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce qu'il va continuer sa hausse? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et pour cela, nous sommes entourés de trois experts que je vais vous présenter. D'abord, Stéphane Laroche. Bonjour Stéphane.
Bonjour Johanna, bonjour
vous
à toutes et à tous.
Vous êtes conseiller en prêt immobilier et assurance de prêt pour la société Avicap. En face de vous, on va saluer Stéphanie Descoussi. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir, merci.
Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice BU indépendant et développement commercial pour Je rêve d'une maison, qu'on va présenter également dans quelques instants. Le temps d'accueillir celui qui est avec nous, qui est en ligne avec nous, Franck Tagiri. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, administrateur de biens pour LMHT Immobilier. C'est à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, évidemment. On en reparlera dans quelques instants. Je rappelle, avant de démarrer, que nous sommes en direct sur Facebook, ce qui veut dire que vous pouvez, dès à présent, nous poser vos questions ou même partager vos réactions et vos avis sur tout ce qui va se dire. On va parler pendant une grosse demi-heure, une quarantaine de minutes, du marché immobilier dans les Hauts-de-Seine. C'est parti.
Émission spéciale Immobilier dans les Hauts-de-Seine face au succès de l'après-Covid.
Alors avant d'attaquer, je vous propose de commencer par un petit tour de table. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous présenter Avicap ?
Alors Avicap, c'est un courtier qui existe depuis maintenant 19 ans, bientôt 20 ans, en 2022. Je vais rajeunir. Et c'est à peu près une cinquantaine d'agences réparties sur toute la France. Sous un format soit de mandataire, soit d'agence affiliée et franchisée Avicap. Donc on intervient sur toute la partie accompagnement du prêt bancaire de A à Z et de l'assurance emprunteur. Donc c'est un réseau en croissance puisqu'on se développe de plus en plus sur Paris-Île-de-France et donc en phase de recrutement. Tout va bien.
Dans les Hauts-de-Seine, vous êtes implanté où? Vous représentez quelle ville ce soir?
Moi, je suis sur Boulogne, ici les Moulineaux.
Boulogne-Billancourt, ici les Moulineaux. On va en parler, c'est des villes qui avaient déjà du succès et qui continuent à en avoir. Stéphanie, je rêve d'une maison. On est où? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, Je rêve d'une maison, c'est une société qui a été une société de chasse immobilière. On accompagne les acquéreurs uniquement, donc on n'est pas une agence immobilière. On travaille en complémentarité avec les agences. C'est une société qui a 4 ans maintenant. On a accompagné plus de 700 acquéreurs pour qui on a trouvé le bien de leur rêve, alors appartement ou maison. Évidemment, on intervient sur tout Paris, intramuros, région parisienne. On a une équipe de 20 chasseurs qui sont passionnés d'immobilier, très à l'écoute des clients, de leurs demandes, de leurs besoins, de façon à sourcer dans un premier temps le bien qu'ils recherchent, optimiser la recherche puisqu'on est en moyenne sur 35 jours et 5 visites. Donc on est vraiment là pour booster leur projet, les accompagner de A à Z, pas seulement pour trouver, mais aussi pour s'assurer qu'ils achètent un bien sécurisé, entre guillemets, en termes de financement, en termes de problématiques qu'il peut y avoir sur un appartement, sur une copropriété, sur un PLU, etc. On les accompagne comme si on achetait pour eux, comme si on achetait pour nous, de façon à faire équipe sur une période de 2 mois en règle générale. Voilà.
Donc de l'accompagnement personnalisé sur l'intégralité du parcours.
Complètement, ouais. Les acquéreurs nous racontent un petit peu leur expérience, leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas, pourquoi ils souhaitent se faire accompagner. Et puis on prend en considération l'ensemble des critères recherchés, la localisation évidemment, on va parler des Hauts-de-Seine ce soir en particulier. Et on s'occupe ensuite de chercher pour eux, de fouiner, de farfouiller. On adore ça et de leur proposer les biens vraiment qui sont pertinents et qui correspondent à ce qu'ils cherchent.
Eh bien, on va voir avec vous, on pourra voir ce qu'ils cherchent justement. Absolument. Et notamment dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes basé sur quelque part en particulier dans le département ?
On est tout près de vos locaux, on est dans le deuxième arrondissement, mais nos chasseurs sont implantés partout dans Paris et beaucoup en banlieue parisienne.
Merci Stéphanie, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Franck Tagiri, LMHT Immobilier, on l'a dit, c'est une agence de Sèvres. Vous faites de l'administration de biens uniquement ou vous faites d'autres choses ?
Alors, nous avons effectivement toutes les activités, ça va de la location, la gérance, la vente et également le métier de syndic. Ça fait maintenant 21 ans que nous exerçons sur Sèvres. Au pont de Sèvres, et on a décidé en vente, en transaction, de se spécialiser avec mon équipe plutôt sur la zone sud du trapèze de Boulogne, la zone où les constructions neuves se sont édifiées entre 2010 et 2015.
Merci Franck pour ces précisions. Alors on l'a dit, ce soir on va parler de cet engouement qui existe pour les Hauts-de-Seine en matière d'immobilier. Avant de parler de cet engouement, est-ce que l'un d'entre vous peut me dresser un rapide état du marché avant la crise ? Stéphanie ?
Alors, avant la crise, donc ça fait maintenant un an, on commence à avoir un petit peu de recul. On a, nous, globalement, sur l'année... on travaille sur 70% des projets sur Paris intramuros, 30% environ sur toute la banlieue parisienne. On a remarqué, particulièrement après le premier confinement, au mois de mai, des acquéreurs qui avaient démarré leur projet en amont ou qui décidaient de le démarrer à ce moment-là, un changement de critères, tant en termes de prestations pour ajouter un espace extérieur, si c'était dans Paris, que en termes de localisation. Et particulièrement cette année, contrairement aux années précédentes, les Parisiens, puisque c'est beaucoup de Parisiens qui... on parle d'exode en province. Bon, réellement, l'exode n'existe pas, enfin, n'a pas eu lieu en province.
Oui, parce que c'est un exode de quoi ? 5 km, 10 km ?
Alors là, oui, voilà, on parle d'exode pour sortir vraiment de Paris et être en périphérie. On a parlé beaucoup, on a beaucoup entendu d'informations de la part des médias sur les Parisiens qui partent à Bordeaux, qui partent en Lozère ou en Corée. Aujourd'hui, ce phénomène n'est pas réel. En revanche, les Parisiens qui partent en banlieue parisienne, pour différentes raisons, ça oui, les Parisiens qui partent d'un appartement pour acquérir une maison avec un jardin, avec une jolie cour, ça oui, avec des critères bien particuliers. Alors, pourquoi les Hauts-de-Seine cette année ? Parce que un grand besoin au-delà de l'espace extérieur, un grand besoin de se rapprocher de zones, on va dire, de forêts, de grands espaces, le bois de Boulogne, évidemment, et puis toutes les forêts avoisinantes. Alors, on parle beaucoup du 92, mais il ne faut pas oublier aussi le 78, puisque les gens reculent de plus en plus, et puis avec des prix, du coup, une forte demande, une pénurie de biens cette année particulièrement. On est sur une saisonnalité sur les maisons en région parisienne. En règle générale, cette année, la saisonnalité est un peu particulière liée au Covid, mais c'est vrai que beaucoup de recherches et beaucoup d'acquéreurs qui sont en difficulté pour trouver le bien qu'ils cherchent avec des prix extrêmement élevés.
Stéphane, ces prix élevés, c'était avant la crise ou c'est particulièrement depuis un an ?
Avant la crise, déjà, les prix étaient quand même sur des niveaux, sur une crête, on va dire, assez haute.
Est-ce que des villes comme Boulogne ou comme Neuilly ont toujours été chères ?
Oui, historiquement, le Valois, Boulogne, Neuilly, c'est très très recherché parce que c'est en fait une extension de Paris, finalement.
Et c'est avec ça, les transports, Boulogne-Neuilly, pour nous, aujourd'hui,
on y est
c'est Paris, quoi.
En 5 minutes. Donc ça s'est encore plus confirmé. Avec, pour certains, le franchissement de la Seine pour aller vers des secteurs comme Asnières, Colombes, Bois-Colombes, Sèvres, Meudon, Saint-Cloud,
oui.
Qui sont, voilà, où il y a un peu plus de verdure, d'espace potentiel, d'extérieur, même sur des raies de jardin, qui sont peut-être un peu plus demandés qu'ils ne l'étaient précédemment. Donc les prix se ressentent, évidemment, sur une hausse légère, mais soutenu malgré tout sur des villes comme tu le citais, sur Rueil. parce qu'il y a une pénurie de biens. Entre-temps, il n'y a pas eu de construction qui se sont créées en un an. Et puis, je dirais que les Parisiens n'hésitent plus, comme ils pouvaient le faire précédemment, à s'exporter de quelques kilomètres.
C'est le mot, ouais.
Franck Tagiri, Stéphanie nous parlait de l'importance des espaces verts, des forêts. On sait que dans votre coin, elles sont présentes. Hein, je pense notamment à la forêt de Meudon. C'est un critère de choix aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est déterminant, effectivement, dans le choix des acquéreurs. Ici, on a la chance, effectivement, d'avoir le parc de Saint-Cloud, qui est donc à proximité également de Boulogne. Il y a le bois de Clamart, il y a la forêt de Meudon. Bref, on est vraiment entouré de zones vertes. Et dans le choix de la zone géographique des acquéreurs, je pense que c'est un des éléments déterminants, effectivement.
C'est ça, l'atout principal des Hauts-de-Seine pour les acquéreurs, Stéphanie ?
Oui, alors, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en effet, comme on disait à l'instant, il y a une recherche de verdure. Néanmoins, sur ces zones-là, il y a un vrai besoin d'être à proximité des transports. Alors, il y a une démocratisation totale hein, de la ligne, des lignes de train, notamment la ligne L. Aujourd'hui, quand on est à Asnières, quand on est à Colombes, la Garenne, ou même à Rueil, enfin, très rapidement, on est à Saint-Lazare.
Et il y a le Grand Paris Express qui arrive et qui va évidemment étendre encore cette présence et ces transports là-bas.
Absolument. Et puis les transports jouent aussi parce que bien souvent il y a un besoin de sectorisation scolaire avec des écoles internationales, avec des écoles vraiment qui sont choisies par les familles. Et c'est vrai que c'est un critère au-delà de prestations, on a envie de dire, d'être très rapidement proche d'une gare. Alors moins de 10 minutes, 15 minutes à pied. On nous parle d'y aller à pied et pas d'y aller en bus comme on peut avoir l'habitude de faire quand on est déjà en banlieue. Les Parisiens ont l'habitude en effet d'utiliser les transports, d'avoir les commerces à proximité, de ne pas utiliser leur voiture. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement recherché quand on s'exporte en banlieue parisienne.
Pour faire un petit tour du côté des prix, hein, au 1er mai 2021, à Asnières-sur-Seine, on était à en moyenne 7000 euros du mètre carré. Boulogne-Billancourt, plus de 9000 euros. Ici, les Moulineaux, près de 9000 euros également. Le Valois, on est quasiment à 10000 euros du mètre carré en moyenne. Neuilly-sur-Seine, vous le disiez, c'est Paris, on est à quasiment 11500 euros en moyenne du mètre carré. Pour Sèvres, on est à 6500 euros. Stéphane Laroche, est-ce que ces prix qui sont en hausse, je le disais en intro, c'est la plus haute hausse en Île-de-France, en tout cas pour ce début d'année. Est-ce que ça arrête les acheteurs ? On sait que l'argent n'est pas cher, mais qu'il est également difficile d'accès.
Exactement, ça n'arrête pas les acheteurs potentiellement dans la mesure où les taux restent en bas. Il y a toujours une capacité d'achat et d'emprunt qui est soutenue subventionnée, sponsorisée. Et donc, évidemment, les acheteurs parisiens qui viennent dans le 92, mais même ceux du 92 qui s'installent encore plus durablement dans le 92, sont toujours là pour pouvoir compenser certains départs aussi, parce qu'il y a quand même des départs d'éloignement. Tu l'as cité tout à l'heure, 78, encore plus de verdure ou d'espace extérieur, parce que c'est vraiment la notion d'espace extérieur qui pousse.
Il y a 78 et 78 quand on est à Châteville, oui. Versailles, il y a quoi, 10 minutes en voiture ?
Non, mais c'est frontalier, donc forcément, Vélizy, etc., c'est vraiment tout juste à côté.
Un acquéreur qui cherche dans le 92, globalement, très souvent, il cherche dans le 78, très proche. Après, il faut aussi, par rapport aux capacités de financement, il faut aussi savoir que c'est souvent des secondo-accédants, donc des propriétaires déjà sur Paris qui cherchent à vendre ou ont vendu sur des prix extrêmement élevés. Aujourd'hui, on est autour des 12 400 euros hein, en moyenne sur Paris du mètre carré sur les prix de mise en vente. Hein. Et du coup, ils arrivent avec un fort pouvoir d'achat en banlieue, notamment dans les Hauts-de-Seine, avec peu d'emprunt finalement. En tout cas, moins que s'ils étaient primo-accédants. Et du coup, alors là, ce qu'on commence à remarquer quand même, c'est des propriétaires qui se disent qu'il y a un effet d'aubaine, justement. Des agences immobilières qui nous disent que que les propriétaires ne sont pas raisonnables, des biens qui restent un peu plus longtemps à la vente et des acquéreurs qui se disent « bon, il y a un moment donné, je veux bien acheter cher ». Mais qu'est-ce qu'il en sera de ma revente ?
Ils sont prêts à faire un effort et sur le budget et à mettre la main au porte-monnaie, mais sans être déraisonnables,
absolument,
finalement.
Absolument. Les acquéreurs sont moins déraisonnables, j'ai envie de dire, que les vendeurs, aujourd'hui.
Franck Tagiri, comment ça se passe côté investissement dans les Hauts-de-Seine ?
Alors, côté investissement dans les Hauts-de-Seine, vous pouvez préciser un petit peu votre...
Est-ce qu'on achète beaucoup pour louer ou est-ce qu'on achète plutôt pour habiter ?
D'accord. Bah, écoutez, il y a un peu des deux. Une chose est sûre, c'est qu'ici, on a sur la zone que je travaille, c'est-à-dire Sèvres, Meudon, Chaville, Viroflay, Boulogne, hein, bien sûr, beaucoup de propriétaires bailleurs. Qui encore récemment ont investi dans des petites surfaces du studio jusqu'aux trois pièces, même hein, les appartements familiaux, et notamment dans la zone sud du trapèze que l'on travaille, tout simplement parce qu'ils ont également bénéficié des amortissements liés aux acquisitions dans le neuf. Voilà, donc ça reste toujours effectivement une je pense, un investissement intéressant pour les propriétaires.
Vous savez nous donner le portrait type du locataire dans votre zone ? Est-ce que c'est plutôt des familles ? Est-ce que c'est plutôt des jeunes ?
Alors, j'ai beaucoup de familles, effectivement, hein, parce qu'aujourd'hui, on a quand même dans la zone alors de Meudon, il y a des appartements, en règle générale, qui sont un tout petit peu plus grands. Ça va du 3 aux 5 pièces. Alors c'est pareil, hein, bien sûr, sur Boulogne, mais sur Sèvres, par contre, j'ai des appartements qui sont en règle générale de surface plus petite, à des exceptions près, bien entendu, mais je pense que c'est plutôt des appartements avec où il y a des familles, en fait, avec enfants, un ou deux enfants.
C'est le type de marché qui a l'air de se dessiner quand on croise un peu tout ce que vous nous avez dit. Stéphanie, vous nous avez parlé assez peu finalement de primo-accédant. Franck nous parle de famille. Stéphane, vous confirmez un peu le profil du propriétaire dans les Hauts-de-Seine ?
Alors je confirme ce que disait Stéphanie, effectivement, où on voit une arrivée un peu plus massive que précédemment de secondo-accédants avec... De fait, des montages un peu plus techniques avec pré-relais, s'ils n'ont pas déjà vendu. Ce qui pose un sujet quant à la capacité réelle d'acheter, parce que parfois, ça peut être plus compliqué d'être secondo-accédant avec un pré-relais que primo-accédant, compte tenu des critères d'octroi de financement qui sont resserrés, de la sélectivité des banques. Donc ça, c'est pour ça qu'au préalable, c'est bon de tout préparer, baquer. Tout comme tu le fais dans tes recherches au préalable, de s'assurer de la capacité d'achat réelle et finale pour pouvoir accompagner les clients.
Ça veut dire que c'est devenu trop cher pour les primo-accédants
Pas nécessairement, parce que moi, le constat que je vois aussi côté primo-accédants, c'est qu'en termes d'apport personnel, aussi boosté par l'effet donation à moindre coût fiscal, on a des dossiers qui sont extrêmement solides en termes d'apport pour des jeunes qui ont une trentaine d'années, qui ont 100 000 euros et plus d'apport, ce qui n'est pas dans une logique de marché quand tout est régulé, sans événement comme on l'a vécu depuis un an. Donc ça fait sortir ces primo-accédants-là de Paris en ayant plus de surface de l'extérieur. Et on reste quand même sur une dynamique avec une population qui est croissante dans les Hauts-de-Seine, donc forcément des familles et puis qui s'agrandissent. Et surtout, je rejoins ce que tu disais aussi tout à l'heure, à la fois l'environnement immédiat et scolaire, où là, il y a encore plus, d'attirance de certaines villes pour ce type de population.
Et c'est vrai qu'on entend, la notion de crédit relais, qui a toujours fait très peur aux vendeurs, dont on ne parlait plus hein, depuis 2-3 ans, puisqu'on était vraiment sur des propriétaires qui n'avaient pas de difficulté à vendre. C'est vrai qu'il est tellement difficile d'acheter qu'on recommande toujours de trouver le bien, le futur bien, plutôt que, avant de mettre en vente. C'est toujours le cas. Néanmoins, en effet, comme les ventes sont un peu plus longues, notamment sur Paris, intramuros, de nombreux acquéreurs sont dans l'obligation de se faire financer avec un prêt relais. Et il y a toujours une appréhension, il y a toujours un stress par rapport à ça. Alors, on essaie de leur expliquer, de faire beaucoup d'éducation par rapport à ça. On est quand même sur Paris, donc c'est une question d'ajustement de prix, tout se vend. Mais c'est vrai que les montages financiers, là, sont un petit peu plus compliqués. Néanmoins, on voit arriver de très gros apports, parfois des paiements cash, sur les Hauts-de-Seine, globalement, des offres au prix, quand même. Même si y a une marge de négociation, mais il y a tellement peu de biens là en ce moment, malgré la saisonnalité, que c'est vrai que les acheteurs sont dans un inconfort pour trouver.
Donc peu de biens, ça veut dire que les biens à la vente partent vite ?
Très vite, très très vite. Donc il faut avoir une vraie disponibilité pour visiter. C'est ce qu'on demande à nos clients. Hein. Nous, on s'occupe de tout pour eux, avec eux. En revanche, on a besoin d'eux pour visiter. On a besoin d'eux pour décider de se positionner. On les accompagne et on les conseille sur à quel prix est-ce qu'on peut se positionner pour avoir une offre qui passe. Et ça passe aussi par beaucoup d'informations à récolter sur les avantages, les inconvénients du bien, et puis sur le contexte de vente aussi des vendeurs. Qui peut jouer, et les agences immobilières qui, en effet, essayent de raisonner leurs propriétaires pour baisser un peu les prix de vente.
Bon, le constat, c'est que depuis un an, pour faire une généralité, on peut dire que le marché est redevenu un marché d'acheteurs plutôt que de vendeurs, comme c'était précédemment le cas, où globalement, les vendeurs décidaient du futur, du choix, et ils avaient 10 acquéreurs du jour au lendemain au pas de devant leur porte. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent, un peu différent dans la mesure où il y a à la fois soit le schéma pré-relais, soit le schéma pris un peu trop parfois, parce qu'ils sont restés sur des notions de voilà, on prend 5-10% par an et hop, ça va se vendre. Sauf que certains maintenant sont certains vendeurs qui achètent sont aussi tenus de limiter le temps de vente. Parce que s'il y a un pré-relais, ça peut vite glisser. Et vu le contexte d'ouverture-fermeture qui a quand même impacté le marché immobilier avec des effets un peu haut et bas, on ouvre, on ferme, on confine, on déconfine, tout ça, ça a une influence aussi sur la psychologie et le délai de réflexion et de validation d'un acheteur pour se lancer pleinement dans son acquisition. Donc il y a eu aussi un phénomène il y a un an, un peu plus de rétractation. Pendant le premier confinement, bon, ça y est, maintenant l'humain a appris et maintenant il s'est décidé encore plus vite. Donc c'est peut-être ça qui va ressortir de l'après-crise, où finalement la réflexion va être beaucoup plus courte, ou pas, hein, je peux me tromper, mais dans la décision d'achat, parce que beaucoup de choses ont été maturées au préalable.
Franck Tagiri, vous avez la même impression ?
Oui, alors moi, je voulais vous parler surtout de la zone que je travaille en particulier. C'est celle, on reprend la commune de Boulogne, la zone sud où il y a essentiellement des logements neufs qui ont été récemment construits. Et effectivement, une attractivité des familles pour cette zone qui s'explique tout simplement parce qu'il y a un bien vivre dans cet espace. On a des typologies de bâtiments qui sont entre R+8 et R+10, avec un quadrillage un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire des grandes rues très larges, avec donc des trottoirs permettant de front de laisser passer les joggeurs, les cyclistes, les piétons. Alors nous on a choisi cette zone avec mes collaborateurs tout simplement parce que d'abord on y habite, hein, donc c'est quand même plus facile d'en parler quand on est sur place, et surtout parce que on voit bien au quotidien et notamment le week-end quand on flâne dans les rues que les gens sont contents. Il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des étangs, des canards, des cygnes, des pelouses où les enfants jouent. Donc ça donne envie vraiment de vivre dans ce quartier, et on est sur des bases tarifaires qui gravitent les 10 000 euros du mètre carré quand même.
Oui, donc ce que vous voulez nous dire finalement, c'est que c'est Paris, les prix de Paris, la proximité de Paris, mais le cadre de vie finalement de la campagne.
Sans les manifs.
Un petit peu, ouais.
Il y a Stéphane qui fait de la provoque.
Ah bon, qu'est-ce qu'il dit?
Non, c'est vrai, sans les manifs.
Ah oui.
Pour l'instant.
Et pourtant.
Moi, je pense que c'est la réussite totale dans ce quartier, parce que vous savez, comme c'est du neuf, il y a une mixité sociale avec 30% de logements qui sont réservés aux HLM. Et je trouve que dans ce quartier, franchement, tout le monde cohabite et bien, ça se passe très bien. Je suis très heureux de vivre dans ce quartier et mes collaborateurs aussi, on est vraiment bien.
Et pourtant, alors c'est pas forcément vos zones à tous, mais il faut qu'on en parle. Il n'y a pas d'uniformité dans les Hauts-de-Seine, dans le sens où il y a certaines villes qui sont quand même assez loin derrière. Je pense à Nanterre, ouais, notamment, à Bagneux. Pour qui c'est quand même un peu plus compliqué de tirer son épingle du jeu?
Alors Nanterre, on est sur une autre typologie d'acquéreurs, puisque sont surtout des investisseurs locatifs, notamment avec la zone universitaire. Et c'est vrai que les prix restent très bas. Alors Nanterre, centre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très mignon. Il y a aussi de jolies petites rues et des maisons meulières, des maisons anciennes, avec des prix qui, en effet, sont très abordables, mais les acquéreurs ne connaissent pas, ne recherchent pas. Même chose sur les Hauts-d'Anières, qui est un peu boudé, hein, clairement, par les Parisiens, par les acquéreurs, et encore plus par les personnes qui habitent déjà sur Anières ou qui habitent déjà dans les Hauts-de-Seine, hein, qui connaissent très bien les bons quartiers. C'est vrai que, alors Gennevilliers, nous particulièrement, on n'a pas de demande, mais c'est aussi...
Attends, il y a eu des travaux pendant des années, ouais. Tout a été rénové à Gennevilliers,
absolument.
Côté Anières.
Ouais, mais une mauvaise cote encore, en tout cas pas devenue à la mode. Ça va arriver forcément, puisque rénovation de la ville, et puis parce que les gens vont être obligés de reculer, et de la même manière qu'à l'Est on a eu l'effet Pantin où aujourd'hui qui était boudé pendant très longtemps, qui est en pleine rénovation, bientôt Romainville, et avec des prix au mètre carré qui ont extrêmement monté, notamment l'année dernière. On est aujourd'hui à Pantin, c'est à 7000 euros du mètre carré, donc ça va être probablement la même chose.
C'est comparable à Bois-Colombes ou pas?
Non, on est Pantin.
Oui.
Non, on est en dessous en termes de prix au mètre carré.
On peut dire qu'il y a eu cet effet à Bois-Colombes d'une ville peut-être un peu boudée il y a quelque temps et qui est devenue un peu à la mode et qui cote
Absolument.
Très en hausse.
Absolument. On avait, sur des gens qui cherchaient Anières, quartier Bac par exemple, Colombes, la Garenne, Colombes qui est très prisée. Finalement, tout ça c'est limitrophe et très accessible. Et c'est vrai que Colombes, Bois-Colombes sont des villes qui aujourd'hui sont demandées. Alors, il y a plusieurs quartiers hein, dans Colombes, dans Bois-Colombes.
Mais comme il y en a dans toutes les villes, finalement.
Dans toutes les villes.
Hein, ouais, absolument. Mais c'est globalement les centres-villes qui sont demandés. Et encore une fois, les proximités gares qui est vraiment recherchée.
Moi, ce que je dénote sur sur des villes comme vous les citez, on peut rajouter des villes même proches de Paris, hein, comme Montrouge, Vanves. Et jusqu'à Sceaux, c'est que c'est des secteurs où il y a quand même des maisons de ville ou des maisons avec des extérieurs. Et au prix au mètre carré, finalement, quand on parle d'un prix au mètre carré, ça veut tout dire rien dire, parce qu'il y a à mon avis, il y a des gros écarts
entre
la maison, enfin les quartiers bien sûr, mais la maison et l'appartement.
Compliqué de parler de prix au mètre carré sur une maison.
C'est là où la notion de typologie de bien intervient. Où toutes ces villes-là qu'on a citées, les maisons, voilà, sont devenues des biens quasi d'exception pour certains,
ouais,
avec des très beaux projets qui ont été faits, hein, ou des rénovations de maisons qui se font beaucoup. Mmh. Et là, pour le coup, tous les métiers de travaux, de rénovation, tirent encore plus les fruits de tout ça,
ouais.
Versus les appartements où, on est dans du collectif, on est sur pas forcément de l'haussmannien. Donc les exportés parisiens vont plutôt vers des surfaces, soit belles terrasses, dernier étage,
Oui, c'est des villes qui se sont gentrifiées, hein, voilà. Clairement, dans les dernières années. Donc de moins en moins de biens avec réellement des travaux, alors que c'est très demandé. On se dit que ça va sous-évaluer un bien, pas forcément en fait. Une maison à rénover complètement et à refaire complètement, avec une possibilité d'extension qui est bien placée, finalement elle va être sur un prix assez assez élevé. Néanmoins, oui, oui, c'est important de préciser qu'on il vaut mieux pas réfléchir en termes de prix au mètre carré sur une maison. On n'a pas de surface carrée, on a un jardin qui est pondéré, on a ce genre de choses. Des travaux aussi de rénovation qui montent les prix de façon
Je dis ça parce que j'ai eu vu passer des financements sur des appartements sur ce type de ville, comme Asnières ou autre, où des prix d'appartements au mètre carré, on pourrait croire que c'est une maison. Or, non, et parce que c'est porté. Alors, il y a une embellie du marché, il y a la ligne métro, etc. Mais je pense que dans la réflexion d'achat, parfois, il y a un peu de, voilà, comme on dit, d'emballement en disant, ben voilà, ça nous plaît, la surface est là, mais en rapport du mètre carré, faire attention quand même de ne pas surpayer certains appartements.
On va poser la question à Franck. Franck, les appartements ont toujours la cote ou tout le monde veut une maison ?
Non, ça c'est peut-être un rêve de tout un chacun, mais effectivement, en réalité, il y a quand même un nombre de maisons qui est limité dans la zone. Donc, il est bien évident que la quasi-majorité des gens qui recherchent à acquérir dans notre zone se portent sur des appartements. Quand vous voyez la zone de Boulogne, pour reprendre le thème de ce soir, sur Boulogne, hormis la zone nord, vous n'avez pas beaucoup de maisons, quelques maisons dans le centre, mais bon, il n'y a pas énormément de choix possibles.
On se console avec les espaces verts et les canards qui sont dehors finalement.
Je crois, il faut être raisonnable.
Stéphane, on arrive à être raisonnable, ceux qui demandent des prêts le sont, ou est-ce qu'ils sont prêts à s'endetter un tout petit peu plus que les fameux 33%
Alors, il y a un an, ils étaient vraiment tous vraiment au taquet, au maximum. Il y a quand même un effet de tout ce qu'on vit depuis un an, c'est la pérennité dans l'emploi, qui pour certains est un vrai questionnement, qui pour certains génère justement un report d'un projet, ou en tout cas de se dire on veut quand même faire attention. Je prends un exemple tout bête, des personnes qui ont un salaire fixe et une partie variable, bon nombre ont leur partie variable qui est complètement fondue sur un an. Et autant il y a un an c'était on voulait au maximum le fixe, le variable, allez, on charge. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus mesuré. En étant attentif, combien mensuellement on souhaite conserver pour vivre normalement.
Il y a le chômage partiel aussi, qui joue beaucoup, puisque un certain nombre de salariés ont été mis en chômage partiel. Et c'est vrai que les banques, là, ont du mal à financer les acquéreurs qui sont dans ce cas-là. Les acquéreurs qui travaillent dans le tourisme ont du mal à être financés. Enfin voilà, il y a une insécurité quand même au niveau professionnel. Il y a pas mal de personnes aussi qui ont décidé de se mettre en indépendant. Et c'est vrai que c'est moins évident parce que pas réellement de recul sur leur activité professionnelle. Donc des acquéreurs qui sont dans l'obligation de mettre un petit peu en stand-by leur recherche de façon à se sécuriser. Moi, je voulais rajouter qu'on a parlé des critères tout à l'heure qui sont demandés depuis la crise. C'est important de parler du télétravail parce que beaucoup d'entreprises ont demandé à leurs salariés, je pense notamment, je ne sais pas si je peux la citer, mais un gros moteur de recherche sur Internet qui a demandé à ses salariés aussi, pour certains, de s'organiser personnellement de façon à avoir un espace de travail réellement dédié. Et c'est vrai que ça représente finalement une pièce en plus, donc des mètres carrés en plus, donc un prix au mètre carré plus important. Et globalement, au-delà de l'espace extérieur, c'est un critère à prendre en considération qui est nouveau pour les familles. Et quand on dit un bureau, c'est pas un petit bureau, puisqu'il faut être capable d'y travailler à deux sans se gêner.
Mais est-ce que c'est pas un feu de paille, ça ? Est-ce que vous pensez que ceux qui cherchent ça aujourd'hui en auront finalement toujours besoin dans un an ?
Alors, quand on voit ce qui se fait à l'étranger et l'adaptabilité, et particulièrement celle des Français, hein, beaucoup de sociétés avaient du mal avec le télétravail avant la crise, on se rend compte que finalement, on arrive à être très agile, notamment au niveau des professionnels de l'immobilier. Hein, beaucoup de choses se font à distance, les visites, les actes notariés... énormément, enfin tout nous, on rencontre nos clients aujourd'hui en visio. On a pris le pas, et du coup, je ne suis pas sûre réellement que ça s'arrête, en tout cas tout de suite. Et il y a un certain confort, pas que pour les salariés, hein, aussi pour les dirigeants. On se rend compte en discutant dans les dîners, j'imagine ça vous est arrivé, que finalement on se retrouve à travailler plus, parce qu'il y a des temps de transport aussi qui ne sont plus là, en étant en télétravail qu'en étant au bureau, et les gens sont contents maintenant de pouvoir revenir au bureau une fois ou deux fois par semaine pour certains.
Parce que moi, je mets un petit bémol sur les effets indésirables du télétravail, sur lequel on était fondamentalement tous étaient en adaptation involontaire, si je puis dire. Donc là, il va y avoir une frange de la population qui va pouvoir continuer, parce que tous les métiers ne peuvent pas le faire, évidemment, être sur ce mode un peu hybride et partager deux jours par semaine, par exemple, en télétravail. Mais pour autant, il y a bon nombre d'entreprises qui sont quand même dans les systèmes de collectifs, que ce soit de mise en place de leur activité ou de réflexion et pour avancer collectivement. Deuxièmement, comme tu l'as dit justement, travailler en télétravail, c'est souvent la même sphère personnelle, professionnelle, et le sous-jacent, c'est les effets entre guillemets psychologiques du trop travailler pour gagner la même chose quelque part, au mieux pour certains. Et de fait, à un moment donné, on peut avoir en face soit une vie familiale ou personnelle qui s'en voit dégradée parce que votre conjoint, si à un moment donné, il ne supporte plus de devoir gérer toute la journée les enfants qui rentrent à l'école parce que vous êtes en réunion ou je ne sais quoi, on peut imaginer que ça peut avoir à un moment donné des répercussions diverses. Et enfin, la partie télétravail, ça va se jouer aussi sur le partage de bureaux. Donc là, sur l'immobilier, mais la plus professionnelle, où on voit, là, ça existait déjà avant, mais encore plus, à mon avis, de développement d'espaces de partage de bureaux, où en gros, il va falloir réserver son bureau pour pouvoir y travailler. Il y aura globalement un poste pour deux, et avec un planning de partage à gérer. Donc ça, c'est aussi une mutation des entreprises qui vont surfer sur ça, et qui, à mon avis, devait arriver un jour. Parce qu'il y a une histoire de coûts financiers aussi liés au prix des bureaux qui sont quand même élevés. Mais pour autant, voilà, faut trouver l'équilibre dans tout ce nouveau écosystème de télétravail qui peut avoir aussi des limites.
On y croit, on commence à s'habituer.
Et il y a une autre chose que l'on oublie, c'est on a tous, sauf les indépendants, on va dire, un patron. Et à un moment donné, votre patron, une fois par an, il va vous évaluer. Or, s'il vous voit que peu ou différemment, alors qu'il voit plus souvent un collaborateur, quelle va être ou pas la distorsion d'une évaluation d'un télétravailleur versus un présentiel dans la qualité de l'évolution de votre carrière. Ça aussi, ça peut avoir un autre impact. Mais on n'est plus dans l'immobilier.
On n'est plus dans l'immobilier, et puis on l'évaluera dans quelques mois. Avant de se quitter, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table. Stéphanie, Stéphane, Franck, je vais vous poser tous les trois la même question. Et demain, est-ce que les Hauts-de-Seine continueront à monter, à connaître un succès grandissant? On parlait tout à l'heure du Grand Paris Express, hein, dont les travaux vont se poursuivre et qui sera terminé dans quelques années. Je pense notamment à un effet peut-être Paris 2024. On sait qu'il se passera pas mal de choses à Boulogne. Il y aura pas mal de sites d'épreuves à Boulogne et sur une autre partie du 92. Alors demain, les Hauts-de-Seine, toujours convoité, Stéphanie?
Je ne suis pas inquiète pour les Hauts-de-Seine. Réellement pas. Je pense que les villes qui sont un peu boudées, dont on parlait tout à l'heure, vont prendre de la valeur, notamment avec les rénovations qui sont prévues, avec le Grand Paris, avec 2024, qui va redonner un peu de baume au cœur à tout le monde. Je pense que les acquéreurs vont devoir reculer. Et on parlait tout à l'heure de Boulogne, de Neuilly, où finalement on se dit, ou même le Valois, on est à Paris. De plus en plus, les villes dont on a parlé, Sèvres, Rueil, Asnières, Colombes, Bois-Colombes, de la même manière, on sera aussi à Paris, en tout cas, on aura l'impression d'y être. Donc je pense, je ne parie pas sur une baisse des prix, et je parie également sur une hausse des prix du 78.
Franck, Sèvres, future capitale des Hauts-de-Seine?
Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une attractivité des Hauts-de-Seine qui ne s'est jamais démentie, moi en tous les cas, depuis que j'ai démarré la profession. Alors c'est vrai que c'était surtout la zone Boulogne, parce que les gens hésitaient encore à traverser la Seine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On a régulièrement des Parisiens qui deviennent sévriens et qui achètent alors soit des maisons côté zone Brancasse ou des appartements dans les coteaux. Donc effectivement, je suis pas inquiet non plus.
Stéphane, le mot de la fin sera pour vous. Comment on voit l'avenir ?
Ça va continuer sur un train de plutôt haussier, mais plus modéré que l'on l'a vécu depuis la dernière crise 2008, globalement, parce qu'il y a un attrait de l'Ouest, de façon générale, même historiquement avant. Je te rejoins sur encore plus loin, au-delà du 92, vers le 78, où là, il y a aussi de la construction qui sera encore plus présente dans le futur. Donc ça aussi, ça va contribuer. Les Hauts-de-Seine vont continuer à être sur le haut du panier en termes de prix et qui plus est, soutenu par des taux qui vont, à mon avis, rester encore un petit moment bas pour soutenir le regain économique que tout le monde attend.
Les Hauts-de-Seine, toujours plus haut. Merci voilà. Stéphane Laroche d'avoir été avec nous pour cette émission. On vient de parler pendant 45 minutes des Hauts-de-Seine, pas j'allais dire des Hauts-de-Sèvres, mais non, des Hauts-de-Seine. Nous avons fait un tour du marché, ce marché qui se comporte très bien. On va refaire un petit tour de table, remercier nos invités. Stéphane Laroche, merci à vous. Je rappelle que vous êtes conseiller en prêt immobilier et assurance de prêt pour Avicap. En face de vous, Stéphanie Descoussi, merci. Vous êtes vous, directrice BU indépendant et développement commercial pour Je rêve d'une maison, et en ligne avec nous Franck Tagiri. Merci beaucoup Franck, je rappelle que vous êtes administrateur de biens pour LMHT Immobilier. Merci beaucoup à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est désormais disponible en podcast, vous pouvez la retrouver sur notre site radio.imo, sur notre application et sur tous les bons agrégateurs de podcasts. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Radio Imo.
Émission spéciale Immobilier dans les Hauts-de-Seine face au succès de l'après-Covid, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.